les derniers entretiens et discours de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Les derniers entretiens et discours de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Nous poursuivons l'étude de cette thématique à la faveur de l'Évangile selon Saint Jean, les chapitres 13 à 16, à la gloire du Seigneur. L'étude qui est menée dans la congrégation depuis déjà quelques mois sur ce sujet nous amène aujourd'hui au chapitre 16. Nous avions étudié les versets 1 à 4 la semaine passée et avant mercredi dernier, nous avions étudié le chapitre 15, les versets, je ne sais pas si vous vous en rappelez, 18 à 27. Alors, aujourd'hui, nous sommes mûrs par la grâce du Seigneur pour débuter l'étude de la séquence de la révélation suivante, qui commence au verset 5 du chapitre 16 de l'Évangile selon Saint Jean. Nous allons lire les versets 5 à 16 et pour être capable de commencer à étudier ce soir. Jean chapitre 16, versets 5 à 16. À la gloire du Seigneur. Je vous invite à ouvrir votre Bible du confort de votre demeure étant et afin de suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 16, versets 5 à 16, à la gloire du Seigneur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Dès le Seigneur bénir sa parole pour votre plus grande édification, mes frères et mes sœurs. Vous l'aurez constaté au verset 5, le Christ adresse un reproche d'amour, un reproche de grâce, un reproche de bonté, un reproche de compassion, un reproche de miséricorde. Quand il dit à ses disciples dans la chambre haute, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Évidemment, vous et moi, pour avoir eu la grâce, le privilège et l'opportunité d'étudier les chapitres 13 à 14, nous savons que la question lui a déjà été posée. On se rappelle que la question lui a déjà été posée en 13:36 par Pierre. Pierre a posé la question ouvertement, explicitement. Seigneur, qui compte aller comme ça? Où vas-tu? Et plus tard, en 14, verset 5, Thomas a posé la question d'une manière à peine voilée, mais le Christ a compris que il lui demandait où est-ce qu'il s'en allait. Alors, le Christ ne saurait oublier que la question lui a déjà été posée. Apparemment, il y a certains théologiens qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais vous dire. Apparemment, il s'attendait à ce que la question lui soit posée à nouveau. Auquel cas, il voudrait dire, et aucun de vous ne me demande maintenant, hein, il parle des derniers éléments du discours, où est-ce qu'il est en ce moment. Apparemment, il fait abstraction. Non. Apparemment, même si la question lui a déjà été posée, il s'attendait à ce que la question lui soit reposée. Mais il y a d'autres étudiants de la Bible qui croient autre chose. Mais je ne rentre pas dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les différentes possibilités qu'il y a. Alors, le Christ s'insurge du fait que ceux qui l'aiment, ceux que lui aussi aime, ne lui a pas posé la question de savoir où est-ce qu'il s'en va. Apparemment, ils étaient plus concentrés sur leurs problèmes, sur leur situation, sur leurs besoins, sur leur angoisse, sur leur confusion, bref, sur eux-mêmes que sur le Christ lui-même, apparemment. Ne nous empressons pas de leur lancer des pierres, vous et moi, parce que nous pourrions faire la même chose dans d'autres contextes. Ils accordent principalement leur attention, ils concentrent leur attention à autre chose. Autre chose, c'est ce que je vais nommer. Leur problème, leur épreuve, leur tracas, leur angoisse, le fait qu'ils ne supportent pas cette séparation, comme on s'en était parlé beaucoup, beaucoup, toi, vous et moi. Et alors, au lieu de se concentrer sur Christ et ce que le Christ a à dire, hein, au lieu de se concentrer sur l'avenir, il se concentre sur le présent. Au lieu de se concentrer sur l'avenir, sur la perspective d'avenir, un avenir si glorieux, si prometteur, qui est très clair pour le Christ, comment que c'est clair pour l'Église, pour eux-mêmes, un avenir de gloire, mais ils s'apitoient sur eux-mêmes, ils se concentrent sur eux-mêmes. Personne n'a posé la question. Et ça pourrait ressembler à un détail, et le Christ ne le prend pas. Il le leur reproche en toute douceur, en tout amour, en toute bonté, en toute miséricorde, en toute grâce. Et avant même d'aller plus loin, je crois qu'il y a un élément d'application pour vous et moi dans cette considération que Jésus a faite, dans ce verset 5, dans ce reproche d'amour que le Christ fait à ses disciples. Il arrive parfois dans notre entourage ou dans l'histoire et que certains chrétiens pensent plus à eux qu'à Jésus lui-même. Il arrive que des serviteurs pensent plus à eux qu'à leur maître. Ils mettent plus l'accent sur les accessoires plutôt que de mettre l'accent sur Jésus, le fondement de la foi. Et même certains prédicateurs, surtout ceux de l'évangile de la prospérité, font parfois la même erreur de mettre plus l'accent sur autre chose que sur Jésus lui-même. Incidemment, on entend parfois certains vous dire que Jésus, c'est celui qui règle tous les problèmes. Ce n'est pas faux. Jésus, c'est celui qui guérit les maladies. Ce n'est pas faux. Jésus, c'est celui qui satisfait nos besoins. Ce n'est pas faux. C'est parfaitement vrai. C'est ce que vous enseignez aussi. C'est ce que j'enseigne aussi. Mais il ne faudrait pas mettre l'accent plus sur ces choses, sur nos besoins, sur ce que nous pouvons recevoir de Jésus, sur ce que nous pouvons retirer de Jésus, sur ce que nous pouvons bénéficier de Jésus, que sur ce que Jésus est lui-même et sur ce que Jésus dit lui-même, sur ce que Jésus demande de ses serviteurs et de ses servants. C'est un peu de cela que je parle. Beaucoup parlent plus de ce que Jésus peut donner, peut faire, de ce que Jésus demande, de ce que Jésus veut pour son service et pour sa gloire. Beaucoup parlent plus de ce que Jésus peut donner que de ce qu'il faut faire pour plaire à Jésus, par exemple. Comment se conformer à la volonté et au désir de Jésus. On referme la parenthèse, c'était un élément d'application par rapport au verset 5, où on voit Jésus très clairement et n'apprécie pas le fait que ses disciples mettent plus l'accent sur eux-mêmes que sur lui-même, que sur son projet global, sur son projet d'avenir pour eux-mêmes dans un premier temps et plus tard pour toute son Église. C'est comme si pour Monsieur Yo, plutôt Jésus t'arrête là, parce que c'est ça qui a fait affaire, c'est ça qui a beaucoup yo. N'ont pas été capable de viser grand, de voir plus grand. Ça a un petit peu irrité Jésus, vous l'aurez remarqué. De plus, parce que les disciples qui étaient avec le Christ dans la chambre haute, ce jeudi soir-là, étaient tellement absorbés par eux-mêmes, ou bien par leur situation difficile, par leur épreuve, leur souffrance, ils n'avaient pas encore compris que le départ de Jésus était tout à leur avantage. Ils n'ont pas été capables de voir la pleine mesure de la valeur, de l'importance du départ du Christ vers son Père. Jésus alors est obligé de répéter cette vérité en disant, je vous le dis, il vous est avantageux, verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Jésus continue de les éduquer, de les former, de prendre patience avec eux, de leur dire davantage pour apaiser leurs craintes. L'Esprit Saint, ou bien le Saint-Esprit de Dieu, ne pouvait pas être donné tant que Jésus n'avait pas été glorifié. On voit cela, hein, en Jean 7, verset 39. Il a fallu attendre la mort du Christ sur la croix pour le pardon des péchés. Il a fallu attendre la résurrection du Christ en signe de victoire sur le péché, sur le monde, sur la chair et sur le diable. Il a fallu attendre l'ascension du Christ dans le ciel, c'est-à-dire la montée du Christ dans le ciel, pour y recevoir la gloire, la domination suprême auprès du Père, pour que le Saint-Esprit de Dieu soit envoyé par Jésus lui-même, pour que le Saint-Esprit de Dieu soit répandu sur ses disciples et après eux, sur tous ceux qui croiront en Christ. C'est ce que Jésus entend quand il dit, cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, hein, le Consolateur ne viendra pas vers vous. C'est tout. Il faut que je m'en aille pour qu'il vienne, parce que c'est le plan de Dieu. Il n'était pas question que lui reste éternellement physiquement sur la terre des vivants. Il était venu pour une mission bien précise, pour un temps bien déterminé. Il était prévu qu'après lui, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui le succéderait. Il serait présent dans le monde, avec toi, avec moi, avec ces gens-là à qui il parlait dans la chambre haute, avec mon père, avec ma mère, de leur vivant. Mais il a fallu que lui, d'abord, il parte. Qu'il sera présent d'esprit, il sera présent à travers le Saint-Esprit, mais il faut que deux corps, il se sépare de son Église. Alors, c'est ce qu'il a fallu faire, c'est ce qu'il a fait, parce que c'est ce qui est écrit. Le Christ n'a pas un agenda à un côté, puis le Père a un agenda à un côté, le Saint-Esprit a un agenda à un autre côté. Ils ont un agenda commun. Il y a une unité d'agenda. Alors, c'est normal que le Christ le fasse comprendre qu'il faut qu'il s'en aille. Et c'est là aussi l'idée d'avantage. C'est là aussi l'idée d'avantage. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, on l'a vu ensemble, vous et moi, à plusieurs occasions, le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il est présenté comme ce qu'on appelle les arts de la vie éternelle, comme le garant de la vie éternelle. Le Saint-Esprit de Dieu est présenté dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, comme l'avant-goût de la présence éternelle de Dieu avec son peuple. Une présence sans voile, de la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est présenté dans la Bible comme celui qui nous fait entrer dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est présenté dans l'Écriture comme celui qui nous régénère. Et alors, quand il est donné, il demeure en nous, il réside en nous. Autant d'avantages que si Jésus ne s'en va pas, ne se sépare pas de son Église de corps, autant d'avantages que son Église ne pourrait pas bénéficier. Ces grandes bénédictions que Dieu procure par l'intermédiaire du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, elles ne pouvaient pas être accordées, ces bénédictions-là, aussi longtemps que le fondement de ces bénédictions-là n'était pas solidement établi. Et lorsque le Christ dit, eh bien, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, il faut qu'il soit d'abord passé par toutes les étapes nécessaires, sa mort, sa résurrection, sa mort crucifixion, sa résurrection et son ascension, pour qu'enfin, le moment venu, le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, soit donné. Le départ de Jésus est avantageux pour les disciples, même si on vient de le voir, puis on le verra encore plus tard, même si sur le moment, dans le moment, ses disciples n'étaient pas capables de comprendre que c'était à leur avantage qu'ils partent. Mais le Christ est convaincu que c'est à leur avantage et il le leur dit. On n'a qu'à comparer leur attitude cette nuit même avec celle qu'ils vont adopter plus tard, quelques heures plus tard. Et quelques heures plus tard, ils se conduiront, on l'a vu mercredi dernier, ils se conduiront en lâches. Hein? La parole de Dieu en Marc 14, verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voyez-vous, c'est un autre indice de comment ils avaient besoin du Saint-Esprit de Dieu pour les galvaniser. Au départ, ça représente un avantage. Le fait qu'ils vont passer de d'hommes un peu fébriles, hésitants, hein, lâches, peureux, à des hommes braves, capables, prêts à faire face à toutes sortes de dangers. On a vu mercredi dernier que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en eux, autour d'eux, qui a rendu possible, eh bien, cette transformation. Ils sont passés de gens peureux, hésitants, lâches, à des gens forts, braves, courageux. Alors oui, à ce titre, le Christ ne saurait se tromper car il est Dieu. À ce titre, en plus de tout ce que j'ai nommé tout à l'heure comme bénédiction que l'Église reçoit par l'entremise du Saint-Esprit, mais le fait que le Saint-Esprit a été donné pour les galvaniser eux, pour les fortifier, les encourager, les motiver, les travailler leur pensée, leur esprit, eh bien, ça représente une autre raison pour laquelle le Christ était convaincu que son départ représentait un avantage pour eux. Le Christ était là avec eux, du corps. Il n'avait pas besoin du Saint-Esprit de Dieu pour ce ministère, parce que le Christ remplissait cette fonction auprès d'eux, une fonction de consolation, de fortification, d'encouragement et autres. Mais sitôt que le Christ doit quitter le monde physiquement, eh bien, ce sera au tour du Saint-Esprit de prendre le relais. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'œuvrait pas quand le Christ était là. Je veux simplement dire que dans la mesure où Jésus était là, le travail du Saint-Esprit était différent, en tout cas auprès de ses disciples. Quand même le Christ a eu besoin, eh bien, du ministère du Saint-Esprit de Dieu pour son ministère lui-même. Voyez-vous, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit était absent ou inutile. Non, il était actif, il était présent, hein, même en faveur du ministère du Christ. On s'en souvient bien. Et cependant, dans l'attribution des rôles éternels, dans le cadre du plan du salut, eh bien, on comprend que dans la tâche que le Saint-Esprit, dans l'œuvre qu'il va devoir accomplir auprès de ses disciples-là, mais ça prend le départ du Christ pour l'envoyer lui-même, eh bien, effectuer son ministère. Luc dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous l'abandonnaient, comparé Marc 14 à 50. Et Marc 14, 50, avec Acte 4, verset 31, ils furent, je reprends Marc 14, 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. OK? Et puis plus tard, après l'effusion du Saint-Esprit, bien entendu, après la résurrection d'abord, hein, ils l'auront vu d'abord, on voit le tableau est différent. Hein? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, voyez-vous. Nous savons aussi que même lorsqu'ils étaient battus de verges, on l'a vu ensemble la fois dernière, même lorsqu'ils étaient battus de verges, eh bien, ces hommes de Dieu-là témoignaient avec joie, avec assurance, avec conviction, avec détermination, avec courage, eh bien, de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'œuvre et de la vie de Jésus-Christ. Alors, quand on met tout cela ensemble, on comprend bien avec le Christ que c'est à leur avantage et plus tard à mon avantage à moi et à votre avantage à vous que le Christ parte pour envoyer l'Esprit. Parce que le rôle qui est attribué par la Trinité bénie au Saint-Esprit n'est pas celui qui est attribué au Fils de Dieu, tout simplement. Voyez-vous, chacun son rôle, chacun sa fonction dans l'exécution du plan de salut de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Le Christ est Dieu, OK? Tout ce que l'Esprit peut accomplir, il peut l'accomplir. L'Esprit est Dieu. Tout ce que j'ai, le Fils peut accomplir, il peut accomplir comme le Père peut l'accomplir. Mais il y a une attribution de rôle. Il y a un partage de responsabilité dans l'exécution du plan de salut. Gloire à notre Dieu. Et au verset 8, verset 8, on est rendu. Alors, c'est réglé pour verset 5 à 7. Vous l'aurez compris. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Versets 8 à 11. Le Saint-Esprit de Dieu, à la faveur de Jean chapitre 16, les versets 8 à 11, le Saint-Esprit de Dieu convainc le monde en ce qui concerne trois choses: le péché, la justice et le jugement. Toute la question maintenant est de savoir qu'est-ce que cela veut dire, convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Nous comprenons ici qu'il s'agit du péché en général. Les gens de tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous comprenons qu'il s'agit du péché en général plutôt que du péché particulier, même si le fait de convaincre le monde du péché général aura finalement une incidence chaque jour dans la vie du croyant du péché particulier, du péché personnel de chacun aussi. Mais au départ, sans entrer dans les détails de langue, hein, de langue, oui, de langue, de la langue originale, eh bien, le Christ est en train de parler du péché en général, du péché originel. Voyez-vous, hein, il parle du péché qui consiste à renier Christ, à refuser Christ, à refuser d'accepter Christ pour avoir la vie éternelle. Du péché qui consiste à refuser de croire en Jésus-Christ. Le péché qui caractérise l'attitude du monde. Voyez-vous? Et il s'agit, cela dit, du péché, le péché dont le Saint-Esprit convainc le monde, les hommes, eh bien, c'est ce péché qui, s'il n'y a pas de repentance, voilà. C'est le péché où, en l'absence de repentance, qui finit par conduire, eh bien, à la condamnation. On va le dire comme ça. C'est le péché qui finit par conduire un homme, une femme, à la condamnation. Si la personne, eh bien, n'a toujours pas confessé, eh bien, Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, comme Rédempteur, eh bien, dans sa vie. Alors, on sait, vous et moi, que tous les autres péchés que quelqu'un pourrait commettre, et peuvent être pardonnés. Mais le péché qui consiste à refuser de croire en Christ jusqu'à la mort, sans repentance, eh bien, ce péché-là ne sera jamais pardonné, frères et sœurs. Le Christ a dit, celui qui croit en moi n'est point jugé. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voyez-vous? Donc, celui qui ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu et qui quitte ce monde sans avoir cru, sans avoir obtenu pardon, eh bien, il est condamné de ce que l'Écriture dit, entre autres, en Jean 3, verset 18. Ensuite, le Christ dit que, dit à ses disciples que le Saint-Esprit, donc voilà pour convaincre le monde de péché, OK? Voilà en ce qui concerne la conviction du péché. Donc, le Christ, le Saint-Esprit de Dieu, amène les hommes à réaliser, eh bien, qu'ils ont besoin de Jésus. Voilà. Il amène les hommes à réaliser qu'ils ont besoin de confesser Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Et il est là pour amener les hommes à réaliser qu'ils ont besoin de salut, de vie éternelle, parce qu'ils sont pécheurs. Ils ont péché contre lui. Donc c'est en ce sens qu'il fait le travail, le ministère de convaincre de péché. Ensuite, il convainc le monde en ce qui concerne la justice. Et il précise, il convainc le monde de justice parce que lui, le Christ, il s'en va au Père et qu'ils ne le verront plus. Alors, ici, la justice, c'est la justice qui appartient à Jésus. La justice qui est propre à Jésus par sa nature divine même. C'est sa justice, sa sainteté, le fait qu'il soit sans péché. Dieu, le Fils de Dieu sans péché. Voilà la justice dont le Saint-Esprit convainc le monde. En d'autres termes, l'Esprit convainc les non-croyants, non seulement de leur péché, mais également l'Esprit convainc les non-croyants, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour vous, hein, pour nous amener au salut. C'est de ça qu'il nous a convaincus, pour nous amener au salut. Il nous a convaincus de péché, il nous a convaincus de justice. Et étant convaincus, nous ayant été laissés convaincus, nous ayant été laissés convaincus par lui, eh bien nous sommes là où nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voyez-vous, nous sommes passés par là. Nous avons bénéficié de l'œuvre et du ministère du Saint-Esprit à cet égard-là. Voyez-vous? Alors je reviens et à ce que je disais, la justice est celle qui appartient à Dieu. En d'autres termes, l'Esprit convainc les non-croyants de non seulement de leur péché, mais également de la nécessité pour les incroyants d'avoir la justice parfaite du Christ, d'être au bénéfice de la justice parfaite du Christ, de leur dire que ta justice ne vaut rien, ta justice à toi, les hommes, à vous les hommes, ta justice à toi, l'homme, l'humanité, ne vaut rien. Votre justice est un panier percé. Votre justice ne peut pas vous amener, eh bien, et à, je dirais, à 2 km, voire vous amener au paradis, voire vous amener dans la présence de Dieu. Il va falloir et vous dépouiller de votre justice parce qu'elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour vous justifier, vous amener au salut et pour embrasser, pour accepter la justice, eh bien, qui est dans le Fils de Dieu. C'est en ce sens, c'est ce que l'Esprit, quand quelqu'un vient au salut, c'est ce qu'il aura compris. C'est ce que le Saint-Esprit aura a réussi à lui faire comprendre et accepter. Frères et sœurs, que sa justice, ses bonnes œuvres, et ça, peu importe ce que il a comme moralité, ne peut rien faire, mais la justice du Christ parfaite est la chose dont il a besoin pour vivre la vie éternelle. Il y a une chose qui est importante ici, c'est quand le Christ dit la justice parce qu'il va au Père et qu'ils ne le verront plus. Pourquoi la justice parce qu'il va au Père? Parce que le Père est un Père saint. C'est un Père très saint. En acceptant le Fils auprès de lui dans la gloire éternelle, ça met en évidence, c'est une preuve, hein, s'il en est besoin, de la sainteté du Fils. C'est l'Habacuc qui dit, hein, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Voyez-vous? Donc, parce que le fait que le Christ va au Père, c'est une preuve de sa justice. C'est une preuve qu'il est sans péché. C'est une preuve qu'il est sans péché. C'est une preuve qu'il est Dieu éternellement. La justice parce qu'il va au Père. Lorsque le Père aura souverainement élevé le Fils, lorsque le Père aura donné au Fils le nom qui est au-dessus de tout nom, après sa mort, sa résurrection, sa mort, crucifixion et sa résurrection, lorsque le Père l'aura réintégré dans la gloire éternelle, alors le Père le justifiera. Le Père attestera, eh bien, qu'il est le seul juste. Gloire à notre Dieu. Eh bien, l'Esprit aura la faculté, l'habileté, le mandat, la mission d'enseigner cela aux hommes, de convaincre les hommes de cela. Eh bien, ceux qui veulent croire, ils croiront. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croiront pas. C'est eux. ceux qui reçoivent le témoignage de l'Esprit de Dieu au sujet de la nature pécheresse et de la justice parfaite du Christ, et qui répondent à l'Évangile par une foi sincère, sont automatiquement revêtus de la justice du Christ. Je répète, ceux qui reçoivent le témoignage de l'Esprit au sujet de leur nature pécheresse et de la justice parfaite du Christ, et qui répondent par la conviction du Saint-Esprit à l'Évangile de grâce par une foi sincère, sont automatiquement au bénéfice ou bien revêtus de la justice du Christ. Dieu justifie les pécheurs repentants en considérant leurs péchés comme étant pardonnés par la mort de son Fils, et la justice du Christ leur est donnée par grâce. Et nous le savons, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a au final a la capacité de convaincre l'homme de la puissance, de l'efficacité, de la justice de Dieu et de la sainteté du Christ et de son pouvoir à sauver. Et pour terminer avec les versets 8 à 11, le Saint-Esprit convainc le monde également, en plus de convaincre le monde de péché, au sens où je l'expliquais tout à l'heure, en plus de convaincre le monde de justice, le Saint-Esprit aurait également pour mandat à son arrivée, il aurait également pour mandat de convaincre le monde de jugement. Verset 11. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Les jugements du monde, pas campés sont rien. Les jugements du monde sont truffés d'erreurs. Les jugements du monde sont truffés de méchanceté d'ailleurs. Les jugements du monde, ce sont des jugements erronés, mauvais, des jugements qui pas camper sont rien, en tout cas, quant aux choses éternelles, quant aux choses de Dieu. Si jugement le monde est campé son bagage, le monde n'aurait pas rejeté le Fils de Dieu. Un des endroits pour voir à quel point le jugement du monde pas campé son rien, le raisonnement humain pas campé son rien, c'est de considérer que le jugement du monde, un des produits du jugement du monde, un des produits du jugement du monde, c'est le rejet du Fils de Dieu. Le rejet par le monde du Fils de Dieu prouve très clairement que le monde ne sait pas juger tant que ça. Le monde parle plus haut que ce qu'il est capable de faire. Les abécédaires de Dieu et des choses de Dieu, ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour les connaître, pour les savoir, pour les comprendre. Donc, sans Christ, sans le Saint-Esprit de Dieu, le monde pas campé sur rien. Peu importe ce que le monde aura dit et fait. Si le monde est incapable de juger, Dieu merci, si le monde est incapable de juger de manière correcte, de manière intelligente, de manière juste, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint lui, le Saint-Esprit de Dieu lui, il est capable de juger parfaitement, justement, incidemment, à ce titre, il est chargé par la Trinité bénie, par Dieu le Père, il est chargé de convaincre les gens de leur faux raisonnement, de leur faux jugement, de leur fausse sagesse, en leur disant, écoutez, la vérité est en Christ. Écoutez, vous êtes des pécheurs. La justice de Christ, c'est la seule norme de salut. C'est la seule norme de vie éternelle. C'est la seule norme de justification. C'est la seule norme de pardon. Vous faites mieux d'accepter Christ comme sauveur. Gloire à notre Dieu. Le prince de ce monde, en l'occurrence Satan le diable, est déjà jugé et jeté dehors. Le Saint-Esprit de Dieu va capitaliser sur cela pour dire aux hommes qu'il appelle au salut, aux élus de Dieu, pour leur dire, écoutez, Satan, le prince de ce monde, pas campé son moyen lui-même tout. Vous faites mieux de vous livrer à Christ. Lui-même ne peut pas se protéger devant le courroux de Dieu. Lui-même ne peut pas s'échapper de l'enfer, du jugement de Dieu. Vous faites mieux de ne pas compter sur lui, puisque si vous continuez de compter sur lui jusqu'à la mort, le moment venu, tu passeras par la même porte que lui pour aller en enfer. C'est ce que le Christ est en train de dire ici. C'est ce discours que le Saint-Esprit de Dieu tient auprès du monde pour le convaincre de jugement. Ah! C'est de cette manière qu'il convainc le monde de jugement. Et Satan est déjà jugé. Il a subi une défaite. Hein, il a subi un chaos. Hein, pour parler dans un langage de boxe, au calvaire à Golgotha, le Christ lui a passé un chaos. Il n'avait pas compris que c'était un chaos que le Christ lui passait. Il jubilait, il était dans la joie. Il pensait que c'est lui qui avait passé le chaos au Fils de Dieu. Et pourtant, au troisième jour après la résurrection du Fils de Dieu, il s'étonne de voir que c'est à lui que le chaos a été passé. Alors, il a mordu le Fils de Dieu au talon, et le Fils de Dieu, eh bien, lui a écrasé la tête. À la croix, Satan est défait. C'est ce que le Christ entend quand il dit, car il est jugé et jeté dehors, verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ben oui, il est jugé. Il est jugé, et nous avons étudié ensemble, à la faveur d'Apocalypse 20, verset 10, qu'il sera jugé. Il est déjà jugé, il est sous le jugement, il sera jugé. Et on a déjà vu tout cela ensemble. Voilà une vérité, hein, voilà une vérité toute simple, je dirais, une vérité toute simple qui devrait faire réfléchir les incrédules. Hein, et tous ceux qui refusent de croire en Christ, malheureusement, ils n'ont pas idée, frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à gémir, à prier nuit et jour pour le monde. Ils n'ont pas idée de à quel point ils ne pourront pas échapper au jugement de Dieu, malheureusement. Hein? À moins qu'ils se repentent. Hein? C'était mon cas, c'était votre cas. Nous avons échappé au jugement parce que nous nous sommes repentis. Nous nous sommes repentis de nos péchés. Ils n'ont pas idée à quel point ils courent le risque du jugement, hein, de connaître le même sort que Satan, qui lui est déjà jugé, et le sort qui est réservé au Satan, mais c'est le même qui est réservé aux autres incrédules, à moins de repentance sincère. Et non, alors, non, le travail est toujours là. Nous allons continuer à prier pour les incrédules, frères et sœurs, mes bien-aimés. Il y a verset, on est rendu au verset 12. Déjà, j'ai encore beaucoup de choses. Jean, chapitre 16, verset 12 maintenant. J'ai réglé verset 5 à 11 et on va régler verset 12. Le Christ dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Hein? C'est assez révélateur, frères et sœurs, mes bien-aimés. Le Christ a passé, vous le savez, 3 ans, hein, 3 ans full time, à enseigner ses disciples, à les instruire, à les encourager et à les exhorter dans la parole de Dieu. Et voilà maintenant, il dit qu'il a beaucoup de choses encore à dire à ses frères et à mes frères et sœurs. Hein, et pourquoi il ne les dit pas maintenant? Pourquoi il ne les dit pas maintenant? Depuis ce temps-là qu'ils sont dans la chambre ensemble. Mais il donne la raison. Il donne la raison. C'est qu'ils ne peuvent pas les porter maintenant. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Ah, la grâce de Dieu se fait voir, se manifeste dans divers contextes de sa relation avec son peuple. Dans divers contextes de sa relation avec son peuple. Il ne les dit pas maintenant parce que ses disciples ne sont pas encore capables de porter ces vérités, d'entendre ces paroles, de supporter ces paroles et par le fait même de les comprendre, de les apprécier à leur juste valeur. On en a parlé de leur faiblesse, de leur manquement, de leur hésitation, de leur égocentrisme. On en a parlé. Ils veulent que ils sont attristés au plus haut point. Ils sont dans un état de délabrement. Alors, le Christ, c'est Dieu. Alors, il comprend que c'est ça. Il serait reste là. Il serait reste là. Rien ne va pas avec Dieu. Rien ne va pas se faire avant son temps. Dieu a un timing bien réglé, bien ficelé. Chaque chose en son temps. Il dit en pile déjà. Il est déjà accablé. Mais c'est pas maintenant, il a dit. Alors, c'est normal. D'abord, il ne les dit pas parce qu'ils ne sont pas capables de porter ces vérités en raison de la grande tristesse qui a envahi leur cœur. Je viens de le dire. OK? Et ensuite, et surtout, il ne les dit pas ces choses-là. C'est beaucoup de choses qu'il a encore à leur dire. Verset 12, il ne les dit pas pour une deuxième raison, c'est à savoir, ils sont incapables de saisir l'importance de l'œuvre de la croix. Malheureusement, ils ne comprennent pas grand-chose à ce stade-ci de l'œuvre de la croix. Je vous en ai déjà glissé un mot là-dessus. On va juste répéter encore enseigner, c'est répéter, OK? On va juste rajouter reprendre quelques éléments qu'on a déjà considérés. Pour deux raisons, le Christ a jugé que ces gens-là, ces frères-là, n'étaient pas capables de porter ces vérités-là qu'il a à leur dire en grand nombre, mais qu'il ne leur dit pas. Hein? Il les jugeait incapables de les porter. Et je viens d'expliquer deux raisons pour lesquelles ils étaient incapables, eh bien, de les porter. Alors, j'ai dit, la deuxième raison, c'est surtout le fait que ils n'avaient pas encore compris l'œuvre de la croix, la mort du Christ, eh bien, dans toute sa profondeur, voilà, dans toute la profondeur de cette œuvre, des raisons de cette œuvre, de la manière dont cette œuvre devrait se réaliser, devrait se faire, devrait se produire, voilà. Et comme les autres juifs de leur temps, comme les autres frères, cousins, neveux, oncles juifs de leur temps, eh bien, les disciples, ceux qui étaient avec Christ dans la chambre haute ce soir-là, ce jeudi soir-là, avant Vendredi Saint, eh bien, ils attendaient ou bien ils croyaient en un sauveur politique et militaire. On en a déjà parlé, je le sais. Ils croyaient, donc j'essaie juste de vous expliquer en détail comment ils ne sont pas prêts, en quoi ils ne sont pas prêts, okay? D'entendre ces autres choses-là que le Christ a à leur dire. Okay? Ils s'attendaient, hein, à ce que le Christ, le Sauveur, le Messie, le Christ chasse les Romains et rétablisse la souveraineté nationale du peuple d'Israël et établisse le royaume messianique de Dieu conjointement avec l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, ils n'ont pas réussi, ils ne parviennent pas à saisir la réalité, la vérité, hein, l'enseignement d'un Messie qui est là pour mourir, qui est venu pour mourir. Le Messie qui est venu pour mourir et que c'est par et dans sa mort qu'il va vaincre la chair, le monde, le péché et le diable. Ils n'ont pas compris cette vérité-là, que c'est par la mort que le Messie triomphera de la mort. Ils n'ont pas compris cela. Voyez-vous? Alors, c'est par la honte que le Messie triomphera de la honte et fera triompher son Église de la honte. Ils n'ont pas compris cet enseignement-là. Ça cadrait pas trop avec leur culture, leur habitude. Ou alors la théologie à laquelle il était souvent exposé avant la venue du Christ. Il l'aime, ils sont avec lui, ils sont pour lui, cela dit. Mais il manque quelque chose, l'Écriture même l'a établi. Il manque quelque chose à leur compréhension. Ça arrive encore dans certaines églises du monde entier. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne comprennent pas grand-chose à la doctrine. Ça arrive. Okay? C'est de bonnes personnes, de bons hommes, de bonnes femmes. Mais il y a des choses qu'ils ne comprennent pas à la doctrine. D'où l'importance de l'enseignement, justement. D'où l'importance de l'étude biblique, de l'école du dimanche, de bonne prédication responsable. C'est parce que jour après jour, on a besoin qu'on dose, on a besoin de grandir dans la compréhension, non, des choses de Dieu, de la vérité éternelle. Voyez-vous? Non, non, nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. Ils en avaient besoin de plus d'enseignement. Ça prend toujours une couche supplémentaire d'enseignement, hein, de compréhension des choses de Dieu. C'était leur cas. Si c'est le cas de bon nombre aujourd'hui dans l'Église, si c'est mon cas encore, j'ai besoin de comprendre tant de choses encore, alors que dire d'eux? Donc c'est tout à fait normal. Mais ils étaient pour le Christ. Quand le Christ dit ce qui n'est pas avec moi est contre moi, mais il ne peut pas les demander ça. Ces gens-là, c'était ces gens à lui. Voilà pourquoi c'est avec eux qu'il s'est réuni comme ça, pour leur confier le mandat qu'il va leur confier par la suite. Voyez-vous, ils étaient à lui, mais ils avaient une faiblesse dans leur compréhension des choses, dans leur connaissance. Mais on verra plus tard qu'ils allaient porter la cause sur leur dos, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, évidemment, quand ils vont avoir compris les choses après la résurrection du Christ. Alors, voilà pour quand le Christ leur dit, eh bien, vous n'êtes pas prêts. Souvenons-nous, le Christ prit les 12 après avec lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Luc 18, 31 à 34, OK? Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ben, voilà, c'était clair. Mais l'Écriture nous montre qu'il n'avait pas compris grand-chose à cela. Le jour de sa mort, on l'a vu. Il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissent pas le sens. Luc 18, 31 à 34. À une autre occasion, le Christ a dit à ses disciples que lorsqu'il sera ressuscité des morts, que ses disciples se souviendront qu'il avait dit cela et qu'ils croiront à l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Jean chapitre 2, verset 15 a continué. Et voici ce que l'apôtre Jean a dit au sujet de Jésus, de son entrée triomphale. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Jean, et en Jean 12, verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ils finiront par comprendre les choses de Dieu. Mais sur le moment, ils n'ont pas compris. Alors le Christ a raison de dire maintenant qu'ils ne peuvent pas porter les autres vérités qu'il a à leur dire. C'est après que le Saint-Esprit de Dieu sera venu le jour de la Pentecôte que les disciples seront prêts maintenant à recevoir cette révélation, ce bloc de vérité supplémentaire que le Christ a à leur transmettre, mais qu'il ne peut pas faire en ce moment-là. Il faut attendre la venue, une autre raison pour laquelle, eh bien, il est avantageux pour eux que le Christ s'en aille. Voyez-vous, une autre raison que je n'ai pas mentionnée. Verset 13a, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, le Saint-Esprit aurait du pain sur la planche. En plus de convaincre le monde de péché, de justice, de jugement, il conduira, il consolera les disciples, il les affermira, mais il les conduira aussi, eh bien, dans toute la vérité. Et comment le fait-il? Comment le Saint-Esprit conduit ou conduirait, conduira, nous conduit, vous et moi, à la suite des disciples, de ceux à qui le Christ s'adressait? Comment il nous conduit? Comment il les conduisait, en tout cas d'abord eux, avant nous? Comment il les conduisait dans la vérité? Eh bien, le Saint-Esprit de Dieu, souvenons-nous, c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. L'Ancien Testament était déjà là, rédigé, inspiré, écrit, quand la promesse était faite quand le Saint-Esprit serait venu à la Pentecôte. OK? Eh bien, dans le Nouveau Testament, ça va être la même chose. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va révéler, qui va inspirer hein, le Nouveau Testament. Hein? Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul a écrit à ce sujet, hein, au sujet de l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu par les auteurs du Nouveau Testament. Voici ce que Paul dit. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Mais comme il est écrit, voyez-vous, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pierre dit que ce qu'il sait, ce qu'il écrit, ce qu'il enseigne à l'Église du Seigneur, ce qu'il transmet à l'Église du Seigneur, lui vient du Saint-Esprit de Dieu. Pour être sûr que Pierre aura reçu plus que ce qu'il avait déjà reçu du Maître quand il était avec le Maître avant sa mort, crucifixion. Voyez-vous, donc, le travail pour lequel le Saint-Esprit de Dieu a été donné, C'est un travail sérieux et le travail a été fait. Pierre et Paul en témoignent. Pierre en témoigne également, frères et sœurs. L'Esprit conduira les croyants dans toute la vérité, les auteurs du Nouveau Testament dans toute la vérité, en inspirant l'enseignement du Nouveau Testament. Mais également, le Saint-Esprit fera l'œuvre d'illumination. Illumination ici, prends-le comme, hein, c'est pas exactement ça, mais prends-le dans le sens de éclairer, éclairage. Quand on parle de lumière, éclairer l'esprit monde. OK? En éclairant l'esprit des enfants de Dieu, en illuminant l'esprit des enfants de Dieu. Une autre manière dont il va révéler toute la vérité, c'est d'abord en inspirant l'écriture du Nouveau Testament, tout son rayon, mais également en illuminant l'esprit des croyants. Ça prend l'esprit de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre Dieu. Ça prend l'esprit du Christ pour comprendre Christ. Ça prend l'esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu, parce que cette parole est la révélation de Dieu inspirée par l'esprit. Donc ça prend l'éclairage, le ministère, l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre l'enseignement. Incidemment, on m'a dit qu'on a fait deux doctorats, trois doctorats, quatre doctorats. Lili, on ne sait pas comprendre. Et puis ma mère comprend le verset, elle explique le verset. Voyez-vous? Donc, affaire, bon Dieu, c'est avec l'esprit, bon Dieu, ça marchait. C'est avec l'esprit, bon Dieu, mon d'avoir fait travail, bon Dieu, mais saisi révélation, bon Dieu. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit de Dieu était nécessaire. Le Christ ne saurait se tromper car il est Dieu. Il instruit les croyants et donne aux croyants des enseignements, des révélations à partir de l'Écriture. Et l'Esprit parlait avant. Quand des grands hommes de Dieu, quand de grandes femmes de Dieu, convaincues, en prière, qui peuvent vivre dans le péché, disent, mon Dieu parlait avant. On comprend ça veut dire très bien. On ne pas penser son chimère. Je ne sais pas si c'est mon cas privé. Je crois que mon Dieu parle avec moi, mon Dieu parle avec moi, à tous les instants, moi-même, quand je parle avec moi. Bon, ça doit être votre cas aussi, voyez-vous. Mais quand il nous parle à partir de la parole qu'il a inspirée. Voyez-vous, il ne nous parle pas n'est pas que vaille. Il nous parle sur la base de la parole inspirée. Il nous dit des choses conformes à la parole révélée, à la parole inspirée par lui. Ah, c'est important de comprendre ça. Si c'est des pour parler à vous, si vous faites expérience, c'est des pour marcher à vous, parler à vous. Mon Dieu, ça. Jean, au même titre que Paul, je termine avec cela. Jean, au même titre. Non, il est dans 22. Ah, je m'excuse, il a déjà eu deux. Ah là là, on y revient, on y revient, on y revient, on y revient. Toutes mes excuses, là. Il a déjà deux. Alors, on va s'arrêter ici. Merci de m'avoir enduré pour tout ce temps-là. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais on y revient de la part du Seigneur et on y reviendra si Dieu veut. Je vais arrêter l'enregistrement avant que le frère Jacques puisse reprendre l'antenne à la gloire du Seigneur.